Allez, on va tout de suite retrouver la chronique de Michel Favret. Alors attention, exceptionnellement, elle a été enregistrée. Voilà, donc elle a été enregistrée. D'ailleurs, Michel nous le précise bien, vendredi dernier. Donc voilà, s'il y a eu de l'actualité spatiale depuis lors, il aura l'occasion de revenir sur cette actualité lors de la prochaine chronique qui, vous le verrez, sera en lien avec notamment la Nuit des Étoiles que l'on retrouve au mois d'août et d'autres événements qu'il y aura également en juillet. Allez, tout de suite, on retrouve donc Michel pour sa 87e chronique astro. Et il va commencer par nous parler de l'actualité. Voilà, c'est la première partie. Et il va nous donner tout d'abord de bonnes nouvelles d'ailleurs, hein, du JWST, James Webb Space Telescope. Allez, c'est parti pour la chronique à Michel.
Nous suivons toujours le feuilleton, si je peux dire, de la mise en service du JWST, ou James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial de la NASA, qui se déroule sur plusieurs mois depuis son lancement le 25 décembre, son déploiement pendant son trajet jusqu'à sa destination à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, puis toute la phase de réglage de son optique et de calibration de ses instruments. La dernière fois, j'avais annoncé la fin du réglage de ses trois caméras, NIRCam, NIRIS et MIRI, ainsi que son spectrographe NIRSPEC, afin qu'il soit parfaitement positionné dans le plan focal du télescope, là où se forme une image nette. Il ne restait plus qu'à les tester dans différentes configurations pour confirmer leurs bons résultats avant de pouvoir être exploités scientifiquement. Et pour ce mois de mai, je dirais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En effet, je n'ai trouvé aucune information importante sur le site de la NASA, donc je crois pouvoir dire que tout se déroule comme prévu et que nous attendons les premières images scientifiques pour le mois de juin. Nous en reparlerons sans doute lors de la prochaine chronique. La découverte de molécules essentielles au vivant dans une météorite. Ces dernières années, les hypothèses concernant l'apparition de la vie sur Terre ont évolué en faisant jouer un grand rôle aux astéroïdes et comètes qui se sont écrasés sur la toute jeune Terre en formation, apportant la plus grande partie de l'eau présente à la surface de notre planète, dans les océans, un ingrédient indispensable à la vie telle que nous la connaissons. Mais en plus, ils auraient en quelque sorte ensemencé notre planète en y déposant des briques essentielles à la chimie de la vie, sous forme de molécules carbonées complexes dont on sait qu'ils sont porteurs depuis que des missions spatiales comme Rosetta ou Stardust nous ont révélé leur composition. Une nouvelle étape dans la compréhension de ce rôle déterminant a sans doute été franchie par l'équipe du professeur Yasuhiro Oba de l'université d'Hokkaido, selon les résultats qu'ils ont publiés fin avril dans la revue Nature Communications. Leur étude portait sur la météorite Murchison, du nom du petit village australien, à environ 100 km au nord de Melbourne, près duquel on l'a vu tomber le 28 septembre 1969. On a donc pu la récupérer fraîche, si je peux dire, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit trop contaminée et dégradée par l'environnement terrestre, et les analyses faites sur elle donnent des informations sur sa composition telle qu'elle était dans l'espace, avant de tomber sur Terre, et donc aussi sur l'astéroïde dont elle était issue. Elle est classée parmi le type des chondrites carbonées, c'est-à-dire qu'elle contient des molécules possédant du carbone, et plus précisément du type CM2, indiquant aussi une teneur en eau, le 2 désignant le type pétrologique, c'est-à-dire qu'elle a subi des altérations par des fluides riches en eau présents dans son astéroïde parent. De précédentes analyses avaient déjà révélé la présence de molécules organiques, comme des acides aminés, mais en utilisant des méthodes assez violentes, comme tremper des échantillons de la météorite dans des bains d'acide bouillant. L'équipe de Yasuhiro Oba a pratiqué plus délicatement en utilisant juste de l'eau froide et des ultrasons pour préserver au maximum les précieuses molécules. Et leur étude révèle la présence de thymine et de cytosine, deux des composantes de l'ADN qui n'avaient pas encore été trouvées dans des météorites, contrairement aux deux autres, l'adénine et la guanine. Dans la description des molécules d'ADN présentes au cœur de toutes les cellules des êtres vivants, on a l'habitude de les désigner simplement par leurs initiales G, A, T et C, astucieusement assemblées dans le titre du film « Bienvenue à Gattaca », qui dénonçait dès 1997 les possibles dérives de notre société où l'analyse de l'ADN serait dans le futur la base des comportements. Avec cette découverte qui complète le tableau des molécules organiques fondamentales pour la vie qui ont pu être apportées sur Terre par des astéroïdes ou comètes, c'est un pas de plus qui est franchi vers la confirmation de cet ensemencement de notre planète depuis l'espace. Une nouvelle image d'un trou noir. Après la toute première historique, publiée le 10 avril 2019, nos auditeurs ont sans doute entendu dans les médias l'annonce de la publication de cette seconde image d'un trou noir, révélée le 12 mai dernier. Dans les deux cas, il s'agit de ce qu'on appelle un trou noir supermassif qui trône au centre des grandes galaxies. En 2019, c'était celui de la galaxie nommée M87 dans le catalogue des objets de Messier, situé à environ 50 millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que la lumière émise par cette galaxie met 50 millions d'années pour nous parvenir. Alors que la nouvelle image est celle de notre trou noir, si je peux dire, car c'est celui qui est au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, et se trouve donc à environ 27 000 années-lumière seulement, si j'ose dire, et qu'on désigne généralement sous le nom de Sagittarius A, car il se situe dans notre ciel, dans la région du Sagittaire. Cela peut paraître assez paradoxal qu'on ait pu faire plus facilement une image d'un trou noir aussi lointain, celui de M87, avant de réussir celle de Sagittarius A, bien plus proche. Mais cela s'explique par les caractéristiques de ces deux monstres. Si la masse de Sagittarius A est estimée à environ 4 millions de masses solaires, c'est-à-dire la masse du Soleil, celle de M87 serait de 6 milliards et demi de masses solaires, donc environ 1600 fois plus gros. Cela leur donne donc des tailles très différentes, avec un horizon, c'est-à-dire la limite où la lumière ne peut plus s'en échapper, ce qui apparaît comme un disque noir sur les photos, d'un diamètre estimé à 24 millions de kilomètres pour Sagittarius A, environ 18 fois le diamètre du Soleil, contre 38 milliards de kilomètres pour M87, à peu près la longueur que parcourt la lumière en un jour. Cela signifie que, vu de la Terre, ils ont sensiblement la même taille dans le ciel, minuscule, car elle correspondrait à peu près à une balle de golf posée à la surface de la Lune. Mais leur différence de taille explique aussi pourquoi il était plus facile de produire l'image de M87, car ce qu'elle montre, le disque de gaz entourant le trou noir, est en rotation et la vitesse de ce mouvement est d'autant plus lente quand le disque est plus large et plus éloigné du trou noir. Donc, comme dit le professeur Chi-Kon Chan de l'université d'Arizona, photographier Sagittarius A, c'est comme tenter de prendre une image nette d'un chiot qui court après sa queue. Il a donc fallu plus de temps pour produire cette image qui nécessitait des traitements plus complexes, car en fait les deux images proviennent de la même campagne de recueil de données qui remonte à avril 2017. Et nos auditeurs peuvent se demander comment on peut faire de telles images. Pour comprendre le long délai pour produire ces images et comment il est possible de tirer le portrait d'objets aussi petits dans le ciel, il faut expliquer la méthode qui a été utilisée. Même si elles ont l'apparence de photos, ces portraits des trous noirs sont en fait des images de synthèse, calculées à partir de données et artificiellement colorisées dans des nuances de jaune pour évoquer la température des gaz en rotation autour des trous noirs et en train de s'en approcher pour finalement y être absorbées. Les données de départ ont été recueillies par une expérience à très grande échelle, baptisée EHT, pour Event Horizon Telescope, soit télescope de l'horizon des événements, car l'objectif de ce télescope était de produire l'image de l'horizon des événements d'un trou noir, c'est-à-dire la limite de l'espace où l'attraction gigantesque de ce corps très dense ne permet plus à la lumière de s'échapper, ce qui le rend donc totalement invisible et correspond grosso modo au disque noir qu'on distingue par contraste au centre du disque lumineux du gaz chaud. Mais ce EHT n'est pas un seul gros télescope, c'est en fait un réseau de plusieurs télescopes répartis dans le monde, en réalité des radiotélescopes, c'est-à-dire des antennes qui captent des ondes électromagnétiques de longueur d'onde bien plus longue que la lumière captée par les télescopes optiques. Pour augmenter le pouvoir de résolution d'un télescope, c'est-à-dire voir des objets plus petits ou des détails plus fins, les lois de l'optique disent qu'il faut augmenter la taille du télescope. Mais pour ces trous noirs qui sont minuscules dans le ciel, il faudrait une antenne qui ferait des milliers de kilomètres de diamètre, ce qui est impossible. Heureusement, il existe une méthode pour contourner cette difficulté, l'interférométrie. C'est-à-dire la combinaison d'images produites par deux ou plusieurs télescopes qui donne au final une résolution identique à celle d'un télescope ayant le même diamètre que l'écartement des télescopes utilisés dans les 9000 km pour l'EHT qui utilise des radiotélescopes répartis sur toute la Terre, du Chili à l'Espagne, des États-Unis et Hawaï jusqu'en Antarctique. La difficulté, c'est que la combinaison des données doit être faite en parfaite synchronisation. C'est facile quand on peut mélanger les signaux de deux télescopes très proches, comme par exemple deux télescopes de 8,20 m du VLT au Chili, où les faisceaux lumineux passent dans des tunnels de quelques dizaines de mètres entre les deux coupoles pour être combinés. Mais à l'échelle de presque la Terre entière, ça n'est bien sûr pas faisable. La technique consiste donc à enregistrer les signaux de chacun des radiotélescopes, mais en les datant très précisément avec une horloge atomique sur place. Après, on rassemble tous les enregistrements, en pratique ce sont des disques durs, et tout le travail consiste ensuite à resynchroniser les enregistrements avec une précision extrême pour combiner les signaux provenant de tous les observatoires. C'est cette étape qui est très longue et difficile, et a pris des mois pour les deux images. Ensuite, il faut nettoyer les images pour essayer qu'elles soient le plus précises possible, et c'est ce qui a été plus long avec celle de Sagittarius A, en raison de la rotation plus rapide du gaz. Mais dans les deux cas, c'est un exploit historique. Maintenant, il reste à améliorer encore la technique pour obtenir des images plus nettes, et c'est ce qu'on attend pour les prochaines années, avec de nouvelles campagnes d'observation réalisées par l'EHT depuis 2017, et notamment en mars dernier. Boeing vient concurrencer SpaceX. Nous évoquons souvent ici le New Space, c'est-à-dire l'entrée de sociétés privées dans le domaine spatial et notamment sur le marché des vols vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, sous-traitée par la NASA. Jusqu'ici, les seuls vols commerciaux, comme les baptise la NASA, ont été réalisés par SpaceX, la société d'Elon Musk, avec sa capsule Crew Dragon et son lanceur Falcon 9, qui permet depuis novembre 2020 aux États-Unis de pouvoir envoyer depuis leur sol et dans un engin américain des astronautes vers l'ISS, après avoir été entièrement dépendant des Soyouz russes pendant une dizaine d'années, depuis l'arrêt des navettes spatiales en 2011. On se souvient notamment des derniers vols de notre célèbre spationaute Thomas Pesquet, parti rejoindre l'ISS le 23 avril 2021 à bord d'une capsule Crew Dragon et revenu de même le 8 novembre. Mais il ne faut pas oublier que SpaceX a un concurrent sur ce marché que nous avons parfois évoqué ici, Boeing avec sa capsule CTS-100 Starliner, capable en principe d'emporter jusqu'à 7 astronautes en orbite, et le lanceur Atlas V, construit en coopération avec Lockheed Martin. Malheureusement, ses vols d'essai ont été assez laborieux puisqu'en décembre 2019, son premier test de qualification sans équipage a été un échec, la capsule n'ayant pas réussi à rejoindre l'ISS en raison d'une défaillance de son ordinateur de bord. La seconde tentative, reportée plusieurs fois pour finalement être prévue le 4 août 2021, n'avait pas mieux réussi car le lancement a été annulé après avoir constaté la défaillance d'une partie des valves du système de propulsion et le vaisseau était retourné en atelier pour réparation. Mais, comme l'ont relaté les médias la semaine dernière, le troisième essai aura été le bon, puisque le Starliner a décollé depuis Cap Canaveral en Floride vendredi 20 mai vers 1h du matin à l'heure française, pour rejoindre avec succès l'ISS à laquelle elle s'est bien arrimée en pilotage automatique le lendemain. Elle l'a quitté mercredi dernier, 25 mai, pour atterrir en douceur au Nouveau-Mexique quelques heures plus tard. À ce sujet, je peux apporter un petit témoignage personnel. Ce soir-là, nous observions le ciel avec un groupe de collégiens de région parisienne venus passer quelques jours en Dordogne. Et comme à chaque fois que c'est possible, le passage de la très brillante ISS dans le ciel est toujours un spectacle à ne pas rater. Mais nous avons eu la surprise de constater vers 23h30 qu'un petit point moins brillant précédait de peu la station sur son orbite, alors que le site que j'utilise pour prévoir ces passages de satellites n'en avait rien dit. Vérification faite le lendemain matin, il s'agissait de la capsule Starliner qui s'était séparée de l'ISS environ 2 heures plus tôt, mais dont le passage n'avait pas pu être prévu, car ces opérations ne sont confirmées que peu de temps avant leur exécution. Sans le vouloir, on a donc assisté à un petit moment de l'histoire de l'astronautique. Car cette réussite permet à Boeing de franchir une étape de la qualification de sa capsule pour l'accès à l'ISS, la prochaine étant un vol de test habité, c'est-à-dire avec un équipage à bord, prévu en principe avant la fin de cette année. Par comparaison, la Crew Dragon de SpaceX a franchi cette ultime étape d'homologation par la NASA en mai 2020. Si tout se passe bien, les premiers vols commerciaux du Starliner vers l'ISS pourraient commencer dès 2023. Et pendant ce temps-là, la NASA se prépare à partir vers la Lune. Même si des sociétés privées pourront être associées au nouveau programme lunaire américain Artemis, comme SpaceX avec son vaisseau totalement réutilisable Starship, l'agence américaine développe son propre lanceur lourd pour envoyer des astronautes sur la Lune, la SLS, pour Space Launch System. Après des phases d'essai, notamment des moteurs de son premier étage dont nous avions parlé ici en janvier-février 2021, cette fusée était totalement assemblée l'automne dernier dans le VAB, le Vehicle Assembly Building, l'énorme bâtiment du Kennedy Space Center en Floride, où étaient montées les grosses Saturn V du programme Apollo dans les années 1960-70, puis les navettes spatiales. Le 17 mars dernier, elle a été sortie du bâtiment, portée par l'énorme crawler, comme on surnomme cette énorme plateforme sur chenille de presque 3000 tonnes, pour rejoindre le pas de tir 39 de Cap Canaveral, celui d'où s'envolaient les capsules Apollo vers la Lune. Un test complet de lancement devait être effectué en avril avec le remplissage des réservoirs, et toute la procédure jusqu'à 10 secondes de la mise à feu. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. La fusée est donc retournée dans le VAB, mais la NASA vient d'annoncer qu'elle doit retourner sur son pas de tir en ce début juin pour recommencer cet essai. Les Américains se presseront certainement pour admirer ce monstre dressé dans le ciel de Floride car il faut dire qu'elle est imposante avec ses 110 mètres de haut, comparable à la Saturne V, dont elle dépasse de 15% la puissance, son premier étage étant encadré par deux fusées d'appoint à poudre dérivées de celles utilisées par les navettes. Si ce test est concluant, un premier lancement devrait être programmé cet été, un vol sans équipage, dont l'objectif serait néanmoins d'aller jusqu'à la mise en orbite lunaire au bout d'un trajet d'environ 6 jours, rester en orbite une douzaine de jours, avant de revenir sur Terre, soit en tout une mission d'environ un mois et demi. On reviendra certainement sur cette mission et son planning lors des prochaines chroniques de juillet et août.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio, la radio des Hautes-Garonne. On est le mercredi 1er juin et c'est toujours la chronique de Michel Favret. Je rappelle exceptionnellement, il a enregistré chez lui et là on va retrouver la dernière partie de sa chronique. Et Michel va tout de suite nous parler du ciel du mois.
Comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web www.constellationsetgalaxies.org pour voir les cartes du ciel, c'est difficile de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails que le résumé que je fais ici. Avec le solstice d'été du 21 juin, jour le plus long de l'année, donc nuit la plus courte, ce mois de juin voit arriver la nuit le plus tard de toute l'année, donc la période la moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne. En effet, en ce moment, le soleil se couche un peu après 21h30 et la nuit n'arrive que vers 23h et même minuit si on attend un ciel bien noir. Et ce sera encore un peu plus tard en fin de mois, car plus proche du solstice, avec le coucher vers 21h50 et la nuit vers 23h15. En cette fin de printemps, les constellations du ciel d'hiver finissent de disparaître à l'ouest dès le début de nuit, alors que les constellations typiques du printemps occupent presque tout le ciel, avec au sud-ouest la figure bien reconnaissable du lion, facile à situer car juste sous les pattes de la Grande Ourse. C'est avec cette constellation bien connue et surtout sa fameuse casserole qu'on trouve facilement les deux autres grandes constellations de la saison, car en prolongeant l'arc de sa queue, on tombe sur Arcturus, l'étoile très brillante et légèrement jaunâtre de la constellation du Bouvier, et en poursuivant un peu plus loin, Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge, figurant son épi, Spica veut dire épi en latin, car cette Vierge n'a rien à voir avec la Sainte Vierge des chrétiens, mais représente une déesse des moissons, souvent identifiée comme la Cérès des Grecs. Dans le ciel, ces étoiles forment un contour ressemblant un peu à un Y. Ces deux grandes constellations du printemps sont au sud, alors que plus à l'est, c'est le ciel d'été qui commence à apparaître, avec les trois étoiles brillantes qui forment le fameux triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr, plus basses vers l'horizon est. En fin de mois, la situation aura notablement évolué, avec en début de nuit le lion déjà bien descendu vers l'ouest pour aller se coucher, le bouvier et la vierge ayant passé le méridien, le ciel se partageant en deux, avec l'ouest pour ses constellations du printemps, et la moitié est peuplée des constellations de l'été déjà bien levées, notamment Hercule bien haute presque plein sud, le triangle d'été assez haut à l'est, le scorpion et le sagittaire émergeant de l'horizon sud-est, encadrant la voie lactée qui se dressera de plus en plus durant la nuit. Côté planète, on ne peut les voir que le matin, où se poursuit leur balai d'avril et mai. L'alignement de quatre planètes commence par Saturne, qui se lève en ce moment vers 2h, minuit en fin de mois, et se termine avec la très brillante Vénus, qui se lève un peu avant 5h, 4h30 fin juin. À peu près à mi-chemin entre les deux, la brillante Jupiter précédant Mars, reconnaissable à sa couleur orangée. Encore très proche ces jours-ci, car elles se sont frôlées lors de la conjonction très serrée de dimanche dernier et s'écarteront progressivement au fil des jours. La Lune s'invitera le long de cette ligne formée par les planètes. Le samedi 18, la Lune gibbeuse sera assez proche de Saturne, un peu moins que la largeur de la main bras tendu. Le mercredi 22, le gros croissant formera un triangle isocèle avec Mars et Jupiter, à peu près à la même distance de chacune des planètes. Puis le lendemain, elle sera encore plus proche de Mars, et c'est seulement le dimanche 26 qu'un très fin croissant dominera la très brillante Vénus dans les lueurs de l'aube, environ la largeur d'un doigt bras tendu. Dans le calendrier, on notera le solstice du 21 juin, qui correspond au moment où le Soleil atteint son écartement maximum au nord de l'équateur céleste, ce qui produit la journée la plus longue de l'année pour nous, dans l'hémisphère nord, et l'entrée officielle dans l'été. Et inversement au sud, le solstice d'hiver, la journée la plus courte de l'année et l'entrée dans l'hiver. Je terminerai en évoquant le marathon d'observation de 24 heures à l'Observatoire de Vers, organisé le samedi 25 et dimanche 26 par l'association Vega de la Lyre, dont le président va nous parler maintenant. Si l'alignement des quatre planètes sera réservé aux lève-tôt ou aux courageux qui auront tenu toute la nuit jusqu'à l'aube, bien d'autres merveilles du ciel auront pu être admirées pendant une si longue nuit, puisqu'elle commence avec le ciel du printemps, qui, comme la Voie lactée ne nous masque pas l'univers lointain, est très riche en galaxies, notamment du côté du Lion et le fameux amas de la Vierge où elles sont tellement nombreuses qu'il est parfois difficile de savoir laquelle on est en train d'observer. Puis le ciel de l'été montera au sud avec la Voie lactée, riche d'amas d'étoiles et de nébuleuses. Et en fin de nuit, c'est le ciel de l'automne qui se lèvera, lui aussi riche en galaxies, et surtout la plus proche et donc la plus belle dans un télescope, la grande galaxie d'Andromède. Donc un rendez-vous à ne surtout pas rater en attendant les nuits des étoiles de début août.
Voilà, donc on remercie Michel, hein, vous avez bien compris, cette chronique a été exceptionnellement enregistrée. On aura deux prochains rendez-vous sur la période estivale. Voilà, il nous a dit quelques mots sur la nuit des étoiles. Alors le prochain magazine, ce sera le 6 juillet. Il viendra pas tout seul, Michel, avec des invités, d'autres passionnés d'astronomie. Et pour la chronique, je vais dire le magazine numéro 89, début août, bien sûr, ce seront les nuits des étoiles qui seront mises en avant. Alors dans la chronique, vous avez bien compris comme c'est enregistré, Michel nous cite. C'était Philippe, le président de l'association astronomique Vega de la Lyre. Voilà, malheureusement, Philippe ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je vais vous donner deux ou trois infos avant qu'on retrouve Calypso pour parler de la restitution du reportage qu'elle a pu réaliser. Alors, concernant cette actualité hein, de l'association astronomique Vega de la Lyre, du samedi 25 juin au dimanche, donc de deux jours durant, de midi à midi, c'est entrée gratuite à l'Observatoire de Vers, une porte ouverte pendant 24 heures non-stop pour observer le ciel, le jour observation du soleil en filtration H-alpha, c'est très pointu, afin de voir eh bien, des protubérances, je cite l'info, c'est-à-dire le bouillonnement du soleil et ses flammes, la nuit observation depuis la coupole, étoiles doubles et amas stellaires dès le coucher du soleil, puis au fur et à mesure de la nuit, lever des planètes, Jupiter, Neptune, Mars, Uranus et Vénus, et entre chaque lever planétaire, observation de nébuleuses planétaires, c'est-à-dire des restes d'explosion d'étoiles, vous aurez la possibilité de pique-niquer sur place avec vos repas sortis du sac. Une buvette sera néanmoins présente et ouverte toute la journée et en première partie de nuit et à 4h du matin. Attention, une spécialité culinaire sera même offerte aux observatrices et observateurs. Ne pas oublier néanmoins d'apporter vos assiettes et cuillères à soupe. Ça, c'est très précis. Merci Philippe. Et le café, attention, il sera, lui, gratuit. Voilà, c'est une belle initiative à partir de 4h du mat jusqu'au lever du soleil. Si la météo n'est pas favorable, mini-conférence est exposée en continue dans la salle Gilbert Badiel de l'Observatoire de Vers. Donc vraiment merci à Philippe, donc le président de cette association, qui nous a envoyé ses infos. On le retrouvera soit sur l'émission de juillet, soit d'août pour nous en parler. Et encore un grand merci à Michel Favret si vous voulez réentendre toutes les chroniques, constellations-galaxies.org.